Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Nous voici donc au Phytobar pour la dernière fois de la saison et ce soir nous allons parler chiffres. Bon, j'ai dit chiffres, c'est exprès parce que ça paraît rébarbatif, en fait ça ne va pas l'être du tout, ça sera bien plus intéressant. Il y a eu curieusement cette année une moisson tout à fait étonnante de publications autour des questions de chiffres, plus exactement autour des questions économiques, d'indicateurs économiques. Par exemple, la revue Écorêve, qui a un très joli titre, la revue qui est parue cet hiver, numéro 31, qui a pour titre « Des chiffres et des êtres ». C'est vraiment très joli, et qui s'interroge longuement sur les différents indicateurs de richesse, sur l'empreinte écologique, j'en passe, et les meilleurs. Et puis, beaucoup plus surprenant, le Conseil économique, social et environnemental, qui publie au mois de mai, donc très récemment, un projet d'avis intitulé « Les indicateurs du développement durable et l'empreinte écologique ». On voit donc que le lien est fait de tous côtés, entre indicateurs de développement durable et empreinte écologique. Et enfin, un petit livre absolument remarquable qu'on ne saurait trop recommander parce qu'il est parfaitement limpide et clair. Il s'intitule « L'empreinte écologique », publié à la Découverte. On le doit à Aurélien Bouteau, qui est un de nos deux invités ce soir. Aurélien Bouteau, vous êtes conseiller, formateur, chercheur indépendant en évaluation et accompagnement des politiques publiques en matière de développement soutenable. C'est impressionnant. Mais en fait, vous vous spécialisez sur cette étude des outils qui permettent l'aide à la décision et en particulier les indicateurs de richesse. C'est ça ?
Voilà, tout à fait. Vous avez très bien résumé la situation.
Ah, je vous remercie. Ce sera beaucoup plus simple pour Rémi Cardinal. Rémi Cardinal, notre second invité, vous êtes membre du PPLD, le Parti pour la décroissance.
Bonjour. Oui, je fais autre chose dans la vie, heureusement, mais effectivement, je suis membre du Parti pour la décroissance.
Alors la raison pour laquelle je vous ai convié l'un et l'autre, c'est que d'abord vous vous êtes croisés au moins une fois récemment dans un colloque qui était organisé par la revue Entropia. Vous étiez là l'un et l'autre, précisément là encore autour de ces questions. Et je me suis dit que finalement, je n'avais jamais entendu discuter entre un décroissant et quelqu'un qui s'intéresse de près à l'empreinte écologique et aux indicateurs de richesse. Or, ce sont, me semble-t-il, deux approches qui sont intéressantes pour essayer de réfléchir à la crise dans laquelle la planète est aujourd'hui. Crise financière, crise économique, crise globale, on le sait, on a eu l'occasion largement d'en parler ici même. Et donc, il y avait un croisement entre, d'un côté, des tentatives pour trouver d'autres manières d'aborder et d'interpréter la crise, d'autres manières économiques, je dirais, en tout cas avec des outils qui partent de l'économie, les indicateurs de richesse, et puis une volonté affirmée de la part des décroissants de sortir de l'économisme, une volonté de décoloniser l'imaginaire, dites-vous, hein, Rémi Cardinal.
Oui, c'est exactement ça. Nous pensons que l'humain doit prendre le dessus sur l'économie, que nous ne sommes pas que des consommateurs. Nous sommes aussi des amants, des poètes, des artistes, des simples citoyens. Et on refuse de se faire piéger dans ce système qui voudrait nous faire toujours plus consommer.
Alors, est-ce que vous vous sentez pris au piège, Aurélien Bouteau, lorsque vous vous penchez sur ces indicateurs ? Ne soupirez pas.
Non, c'est vrai. Non, mais une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé depuis quelques temps à ces questions d'indicateurs, c'est que précisément, un indicateur reflète quelque part un projet politique et la toute la construction depuis une trentaine d'années d'indicateurs alternatifs est essentiellement basée sur une critique de la croissance. Et quand on parle de croissance ou de décroissance, à l'origine, c'est vrai que c'est bien entendu la croissance d'un indicateur qui est le produit intérieur brut. Et les mouvements politiques critiques de la croissance, hein, ça remonte à la fin des années 60, début des années 70, ont porté d'emblée cette question des limites de la croissance, hein, à la fois démographique et économique, et donc en interrogeant forcément la question des indicateurs, qui sont la mesure en fait, du progrès que se fixent les sociétés.
Alors peut-être qu'on devrait d'ailleurs revenir un petit peu sur cette histoire. Il y a deux éléments qui me semblent intéressants. D'une part, vous rappelez, et je pense que c'est important de le faire, le propos du Club de Rome, le fameux rapport du Club de Rome dont tout le monde a entendu parler, tout le monde connaît le titre et finalement très peu de gens savent ce qu'il y avait dedans. Donc peut-être en quelques mots pourriez-vous nous rappeler le propos de ces auteurs?
Alors c'est vrai que le rapport du Club de Rome, il a été publié à tout début des années 70, hein, 71-72. La traduction française était halte à la croissance, mais avec un point d'interrogation tout de même. La question qui avait été posée par le Club de Rome aux experts du Massachusetts Institute of Technology de Boston était la suivante. Qu'est-ce qui se passe si on généralise les modes de consommation, de croissance économique des 30 Glorieuses que les pays riches ont connu, hein, au cours des 30 dernières années? Si on les généralise à l'ensemble de la planète, de la population, qu'est-ce qui se passe? Et alors, ils avaient construit un modèle. C'était le début de l'informatisation. Hein, donc, on arrivait à faire des modélisations de systèmes complexes. Et à partir de là, ben, les projections qui sortaient avec des scénarios, on va dire, de plus en plus optimistes, les scénarios, mais les résultats ne l'étaient pas, montraient qu'effectivement, si on continue sur ces deux variables de croissance, que sont la croissance démographique et surtout la croissance économique, à un moment donné, on atteint les limites physiques de la planète et ça se traduit à terme par un effondrement social, économique, etc. Effectivement, ça a été un moment important dans la prise de conscience des limites de la planète, des limites physiques.
Moment important dans cette prise de conscience qui n'a pas empêché que dans le même temps, dans la même période, à partir des années 70 et jusqu'à aujourd'hui, on a connu une croissance exponentielle du succès de cet indicateur qui est le PIB. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, au moment même où on prenait conscience des limites de la planète, on les effaçait, on les occultait et on se concentrait de manière hallucinante et hallucinée, je dirais, sur le fameux PIB.
Oui, alors il y a même eu des retournements de veste assez hallucinants. Hein. Je pense à des gens qui signaient des livres qui s'appelaient « Les objecteurs de croissance » au début des années 70, parmi lesquels un certain Jacques Attali, par exemple, qui, 30 ans plus tard, signait un rapport sur la libération de la croissance. Tout d'un coup, la croissance était quelque chose d'indispensable, d'incontournable. Alors il y a à nouveau des retournements de veste, semble-t-il, mais enfin bon, on reviendra peut-être sur ces questions. Mais effectivement, cette critique de la croissance qui est portée au début des années 70, le problème, c'est que le message de la croissance zéro, qui n'a pas du tout été anticipé, qui a été subi du coup avec le choc pétrolier, a entraîné une crise socio-économique parce qu'on n'avait tout simplement pas anticipé cet événement. Et je pense que les urgences socio-économiques au milieu des années 70 ont fait que les questions environnementales et la question de la mesure alternative du progrès étaient un petit peu reléguées au second plan. Il a fallu attendre les années.
C'est assez paradoxal d'ailleurs de penser que justement cette crise qui aurait pu être un indice d'alerte supplémentaire, au contraire, a servi à occulter cette crise du pétrole.
Oui, c'est un vrai paradoxe parce que la crise pétrolière, c'était vraiment la démonstration par A plus B de la dépendance totale de nos sociétés vis-à-vis des ressources naturelles et en particulier vis-à-vis des ressources fossiles. Donc la limite que ces ressources imposaient à notre développement, là, c'était spectaculaire. Tout le débat d'ailleurs sur le pic pétrolier aujourd'hui tourne un petit peu autour de ça. Comment on va le gérer alors que là, on peut l'anticiper? C'est une grande question. Et on a perdu, j'ai envie de dire qu'on a perdu un peu 30 ans hein, de réflexion quoi, et d'action surtout.
Rémi Cardinal.
C'est peut-être ce qui prouve que nous sommes dans une croyance avec la société de croissance. C'est-à-dire que tous les indicateurs sont au rouge. On nous explique, on écoute des experts, des savants, qui nous rappellent que nous arrivons aux limites des capacités de la planète. Et puis nous continuons, jamais dans le débat public, nous entendons des gens qui vont dire très sérieusement que peut-être nous nous sommes trompés. Donc on a vraiment l'impression que... Alors évidemment, des experts, des gens qui travaillent sur le sujet vous diront ça. Mais dans un débat public, eh bien, on reste dans cette croyance de la croissance infinie.
Il y a même eu une volonté de raffermir cette croissance, me semble-t-il, avec le rapport Brundtland. Le célébrissime, lui aussi, rapport Brundtland.
Oui, alors c'est vrai que le déclencheur, en quelque sorte, de la négociation, ça a été l'électrochoc du Club de Rome dont on a parlé tout à l'heure. Dans la foulée, il y a eu la conférence de Stockholm en 72.
Oui.
Bon, on posait la question du rapport homme-nature hein, de manière très, très frontale, avec bon, les vieux débats hein, qui étaient déjà présents entre environnement et développement, est-ce qu'il faut choisir. En gros, il y a 20 ans de négociations internationales qui vont mener, alors 15 ans, parce qu'en 87, il y a la publication du fameux rapport Brundtland. Le rapport Brundtland, il faut bien le voir dans ce processus de négociation internationale comme un moment où finalement, après 4 ou 5 ans de négociations au sein de la commission Brundtland, hein, Commission mondiale sur l'environnement et le développement, c'était son intitulé exact, eh bien, on aboutit à une espèce de consensus, j'ai envie de dire de consensus mou. C'est-à-dire que oui, il y a des besoins de développement qui sont évidents, notamment pour les pays du Sud. Hein, on pourra revenir sur cette notion de développement et son contenu, mais il y a des besoins d'augmentation de consommation, de production dans certains pays, en tout cas des demandes légitimes. Et en même temps, on voit bien que le mode de développement des pays du Nord n'est pas généralisable. Donc, problème environnemental majeur. Et du coup, quand on est dans un tel processus de consensus, hein, on arrive un petit peu à des choses un peu molles, donc le concept
quand
de développement durable.
Parler du consensus, c'est moi je trouve que c'est peut-être justement un des aspects intéressants de cette commission, ça a été d'avoir dégagé cette inéquité entre pays du Nord et pays du Sud, l'avoir souligné. Le consensus, c'est plus sur des sortes d'affirmations comme ça un peu incantatoires sur il faut léguer aux générations futures, etc., la planète telle qu'on nous l'a léguée et tout ça. Toute chose qui n'engage que ceux qui y croient, évidemment, et donc pas grand monde, malheureusement. Mais vous avez raison, effectivement, vous soulignez dans l'empreinte écologique ce côté très consensuel, c'est-à-dire qu'on essaye finalement de ménager la chèvre et le chou, la nature et le développement économique, ce qu'on peut appeler le capital naturel et le capital artificiel, le capital financier.
Oui, alors c'est vrai que les débats, quand je parlais de consensus autour de la notion de développement durable, c'est parce qu'il y a eu cette négociation internationale et que finalement, quand on fait une négociation, on aboutit au plus petit dénominateur commun. Là, c'était la question du legs aux générations futures, la solidarité intergénérationnelle. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce principe ici, qu'il faut léguer aux générations futures. Voilà, donc là, il y avait un élément de consensus qui était quand même facile à saisir. En même temps, ce qui est intéressant quand même, c'est que tout de suite, on a vu à nouveau les écoles de pensée qui s'opposaient. En gros, les écologistes et les économistes, notamment les néoclassiques, s'opposaient à nouveau sur le contenu de ce qu'il faut léguer aux générations futures. Et notamment un gros dissensus autour de la notion de capital naturel. Je cite souvent Mark Twain qui disait « Quand on a appris à réfléchir comme un marteau, on voit tous les problèmes comme des clous ». Et évidemment, les économistes vont avoir tendance à aborder la question de la nature, de l'environnement, sous le terme de capital naturel. En gros, ce qu'on va utiliser de la nature pour fabriquer du capital artificiel. Et les économistes néoclassiques, finalement, ont très facilement recyclé leur théorie de la croissance en disant, mais finalement, la croissance, c'est pas le problème, puisque c'est ce qui va permettre, grosso modo, de générer de la recherche et donc des procédés technologiques qu'on va pouvoir léguer aux générations futures en lieu et place du capital naturel qu'on aura dégradé. Donc, en fait, cette approche qu'on appelle de la durabilité faible, hein, c'est pas moi qui ai inventé les termes, c'est la catégorisation que les économistes eux-mêmes utilisent, cette définition de la durabilité permet aux générations présentes, finalement, de continuer à faire comme on fait tout le temps, comme on l'a fait depuis 30 ans, continuer la croissance économique, continuer la croissance de la consommation, en posant l'hypothèse, d'une part, que le capital naturel est substituable. Je suis désolé d'utiliser le terme technique, mais c'est celui qu'utilisent les économistes. C'est-à-dire,
c'est-à-dire très clairement qu'on peut remplacer du capital naturel par de l'argent.
On va dire par du capital artificiel. C'est pas aussi simple que de l'argent, on va dire. En particulier, ce sur quoi misent beaucoup quand même les économistes néoclassiques, c'est la technologie. Donc, on va créer des technologies qui vont nous permettre de
dépolluer l'eau.
Voilà, tout à fait, tout à fait.
Décontaminer les sols, etc.
Voilà, donc cette approche-là est tout à fait compatible avec l'idée de croissance même des pays les plus riches.
Et pendant ce temps-là, bon an mal an, notre PIB, lui, continue sa glorieuse carrière.
Et oui, mais surtout si on pose cette hypothèse que ce n'est pas un problème, et que du coup, on peut continuer sur cette logique. Non, je pense qu'il y a à la fois des problèmes mécaniques qui font qu'on est mécaniquement un peu dépendant de cette croissance, hein. Et puis il y a des problèmes idéologiques. C'est vrai que, la plupart de nos élus, hein, de nos élites, ont appris que dans une bonne logique productiviste, la santé d'une société se mesurait à la croissance de son produit intérieur brut. Et en gros, plus on consomme, plus on a, plus mieux on est.
Seulement, voilà, vers la fin des années 90, début des années 2000, de nouveaux textes commencent à sortir qui mettent en doute la capacité du PIB à véritablement mesurer le bien-être, le développement, le bonheur d'une société.
Oui. Alors, c'est vrai que la critique du PIB, elle est plus ancienne, mais il y a un renouveau de la critique du produit intérieur brut.
En tout cas en France.
Oui, en tout cas oui. En France, à la fin des années 90, début des années 2000, en particulier avec les publications de Dominique Méda ou Patrick Vivray, hein, qui vont réactiver vraiment les débats. Alors, il faut pas non plus se tromper d'ennemi. C'est vrai que le PIB mesure ce qu'il mesure. Le problème, c'est qu'on a fini par lui donner une autre réalité. Hein. On a fini par.
C'est-à-dire qu'on a élargi son champ d'action en
quelque
sorte.
Tout à fait. Bah, disons ouais. que quand on crée un indicateur, on en reparlera peut-être avec l'empreinte écologique. On part d'un principe un peu conceptuel, par exemple la richesse d'une nation, et puis par différentes étapes de, on va dire, de réductionnisme, on réduit de plus en plus ce qu'on mesure. Hein. Mais à tel point qu'au bout, on ne sait pas bien si c'est vraiment ce qu'on voulait mesurer au bout du tuyau qu'on a réellement. Et le PIB bah, mesure grosso modo. À la rigueur, la richesse monétaire. Mais il va ignorer tout ce qui n'est pas monétaire, donc tout ce qui ne fait pas partie du champ marchand. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, il va avoir tendance à comptabiliser positivement absolument toutes les dépenses. Donc même ce qui est néfaste pour la société, la destruction de l'environnement ou les accidents. Hein. Plus il y a d'accidents de voiture, plus ça va créer de l'activité économique. Bon, en soi, c'est pas bon.
Un exemple forcément. Qui est souvent donné, c'est celui justement des accidents de voiture. S'il n'y avait aucun accident de voiture, le PIB s'effondrerait.
Alors, je ne sais pas si le calcul a été réalisé. En tout cas, il y a eu une étude, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il y a eu une étude quand même assez précise sur le PIB du Japon. Je crois que c'est en 1996. À l'époque de Kobe, le tremblement de terre de Kobe, alors moi j'appelais ça l'effet Kobe, ben, Kobe ça se traduit par un immense tremblement de terre qui détruit une ville quasiment entière, hein, de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'habitants. Ça se traduit par plusieurs milliers de morts malheureusement. Mais alors bonne nouvelle pour le PIB, c'est qu'il a fallu tout reconstruire. Donc l'année suivante, le PIB du Japon, effectivement, ben, a été dopé un petit peu par cette activité. Donc c'est un peu caricatural, mais effectivement ça illustre quand même certains défauts du produit intérieur brut. Quand on veut l'interpréter comme un outil de mesure du bonheur.
C'est-à-dire, quand vous dites quand on veut l'interpréter, mais c'est une sorte de commodité, une forme de paresse globale de la société qui permet que finalement le PIB en vienne à incarner absolument tout le système et non plus uniquement effectivement les valeurs monétaires.
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on s'est un peu habitué à cet oui. outil. Et puis aussi, comme je le disais, pour des raisons mécaniques, hein, c'est vrai que quand vous êtes un État, un gouvernement, et que vous prévoyez des dépenses pour l'année suivante, ben, faut prévoir les entrées qu'il va y avoir. Et donc, vous prévoyez la croissance de l'activité pour anticiper tout ça. Donc, il y a plein de phénomènes qui font que voilà, on est un petit peu pris dans cette logique. C'est pas si facile d'en sortir, apparemment. Hein. Je suis pas économiste, mais...
Alors, priori, c'est pas si facile d'en sortir, mais d'aucuns en rêvent, Rémi Cardinal.
Oui.
Alors, il faut faire attention à ce qu'a dit Aurélien Bouteau. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Le PIB, c'est juste un thermomètre pour des choses bien précises.
Mais bien sûr. Vous avez bien compris, avec nos slogans, on aime bien un peu titiller, on aime bien être un peu provocateur. Nous rejetons tous les indicateurs, même si on est bien d'accord que ce sont des outils très intéressants. D'ailleurs, j'aimerais vous raconter une petite histoire, si je peux me permettre, qui n'a rien à voir avec les indicateurs, mais vous verrez peut-être qu'il y a un lien.
Ce sera notre interlude.
Exactement. Donc, comme je vous disais, hors antenne, je suis musicien, et quand vous m'avez invité donc, pour réfléchir sur cette question d'indicateur, j'ai pensé tout de suite à l'invention du métronome au début du 19e siècle par Mazel. Et puis quand le métronome, c'est un outil qui sert à battre la mesure. Et quand ce métronome a été inventé, tous les musiciens, tous les grands artistes de cette époque-là ont trouvé ça extraordinaire. Beethoven a déclaré d'ailleurs que c'était une plus grande invention car on allait pouvoir enfin jouer sa musique dans l'Europe entière comme il avait imaginé. Et puis quelques temps après, il a déclaré « Le mouvement métronomique que je marque sur la partition n'est valable que pour les trois première mesure. » Car il s'apercevait que les gens, finalement, ne faisaient de la musique que avec le métronome. Et la musique, ce n'est pas ça. La musique, c'est comme la vie. Il y a des fluctuations. Quand on est agité, eh bien, on va un peu plus vite. Quand on veut chanter, eh bien, on va un peu plus lentement. Eh bien, avec le PIB, j'ai un peu l'impression que nous avons fait exactement la même chose. On s'est doté d'un outil extraordinaire qui calcule, finalement, la consommation. Et on s'est dit, plus les gens vont consommer, plus les gens seront heureux. Et toutes nos politiques se sont rivés sur cet indicateur. Et si nous n'en sortons pas, ben justement, nous ferons un peu comme le métronome.
Et c'est là que ça se corse, puisque Aurélien Bouteau, il y a effectivement la volonté d'en sortir de cet indicateur-là et d'en trouver un autre, voire plusieurs autres. Et il y a eu énormément de tentatives depuis une dizaine d'années, en gros.
Oui, alors c'est vrai que plusieurs critiques ont été apportées au PIB, et du coup, on a vu une pléiade d'indicateurs dits alternatifs. Alors quand on dit indicateur alternatif, évidemment, c'est alternatif au produit intérieur brut, en l'occurrence. Donc constatant un certain nombre de défauts du PIB, on a vu des expériences diverses et variées pour essayer de mesurer autrement le progrès ou autre chose que le PIB. Alors il y a eu des tentatives de monétarisation où en gros on commence à dire bah oui mais alors si le PIB mesure pas bien ça peut-être qu'il faut lui donner une valeur et le rajouter et si ça c'est compté positivement alors que c'est un problème pour la société peut-être qu'il faut lui donner une valeur et l'enlever. Donc voilà, il y a des réajustements, hein. Ça c'est des exercices qui sont assez appréciés des économistes évidemment. Et puis il y a eu des approches un petit peu alternatives. Alors dans deux grands domaines.
Vous dites alternative, une des premières c'était le PNUD.
Oui, alors une des plus connues en tout cas. C'est vrai que les Nations Unies dans les années 80 ont fait le constat à la fin des années 80 que alors quand vous parlez du PNUD, il faut préciser programme des Nations Unies pour le développement.
Vous avez
donc
raison.
Le PNUD, voilà, développement, voilà. On reste là-dessus. Mais eux-mêmes constataient que le sacro-saint indicateur utilisé par la Banque mondiale qui était le PIB posait un certain nombre de problèmes quand il fallait orienter les politiques de développement vis-à-vis de certains pays. Dans leur rapport de 1990, le rapport un petit peu fondateur de l'indice de développement humain, puisque c'est à ça que je pense que vous faites référence, il prenait un certain nombre d'exemples de pays et montrait que le PIB reflétait peut-être pas très bien le niveau de développement d'un pays. Alors, par exemple, je me souviens d'un exemple dans le premier rapport, je crois qu'il comparait la Jamaïque à un pays producteur de pétrole qui devait être, on va dire le Qatar, hein, j'ai plus le nom exact. Et alors le Qatar a un PIB par habitant 5 ou 6 fois supérieur hein, à la Jamaïque. Par contre, une espérance de vie beaucoup plus faible, presque de 10 ans. Pour des raisons que je vous laisse imaginer concernant la Jamaïque, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, on avait cet écart. Donc, le discours était là, le constat était là. Il faut mesurer le développement, pas seulement sur une base monétaire économique, mais aussi sur des bases plus qualitatives liées à la fois à la santé, par exemple, mais aussi, pourquoi pas, à l'éducation. Et de là, de cette réflexion est née, alors c'est plus compliqué que ce que je vous raconte, hein, mais de cette réflexion, grosso modo, est née l'indice de développement humain, qui est l'indice un petit peu officiel des Nations Unies et qui est clairement concurrent du PIB, qui est plutôt l'indice de la Banque mondiale. Donc une différenciation déjà qualitative sur la notion de développement et de croissance, une distinction des deux qui apparaît à ce moment-là. L'IDH, donc, naît à ce moment-là, début des années 90.
Il y a eu donc beaucoup d'autres tentatives, nous le disions, un peu dans différentes directions. Il y a des indicateurs de bien-être social. Il y a des indicateurs, effectivement, sur l'éducation, vous le disiez. Il y a même un indicateur qui s'appelle le Happy Planet Index.
Oui.
L'index de la planète heureuse.
Oui, alors, une question qui a fini par se poser, c'est finalement, on ne l'a pas évoqué, mais la question environnementale, quand même, est importante. On va parler d'empreinte écologique. Si je regarde la corrélation entre le PIB et l'empreinte écologique, c'est assez spectaculaire. En gros, c'est un petit peu comme un moteur. Hein. Plus vous appuyez sur l'accélérateur, plus ça va aller vite, certes, mais plus vous allez consommer de l'énergie. Ben, c'est un petit peu pareil. Plus on a un PIB élevé, plus la tendance est à avoir une empreinte écologique forte. Donc cette corrélation entre la croissance du PIB et la croissance de l'empreinte écologique interroge sur la pertinence, là aussi, du PIB. Et donc de là est née l'idée, est-ce qu'on ne peut pas finalement redéfinir le développement sur des bases peut-être moins matérialistes? Donc voilà, il y a eu plein de réflexions sur ces sujets-là. Le Happy Planet Index auquel vous faites référence, c'est une expérience qui est née il n'y a pas très longtemps en Grande-Bretagne, hein, de la part de la New Economics Foundation. Leur idée, c'était de se dire, il faut qu'on arrive à croiser, à mettre en balance le bien-être de la société et son empreinte écologique, pour voir si, voilà, en mesurant plus qualitativement, finalement, la qualité de vie, on arrive à décorréler un petit peu de l'empreinte écologique. Alors, en gros, ils sont partis sur une approche vraiment loin, loin du PIB, puisque la dimension de bien-être social, ils ont intégré deux données qui sont l'espérance de vie, donc une donnée, on va dire, objective, la durée de vie, hein, l'espérance de vie à la naissance, qu'ils ont croisé avec un indicateur très subjectif, qui est l'indice de satisfaction de vie, qui est un indicateur, entre guillemets, qui est mesuré depuis très longtemps maintenant, qui, on ne peut plus subjectif, on prend un échantillon soi-disant représentatif de population, puis on lui pose une question qui est en gros, sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que vous vous positionnez votre niveau de satisfaction de vie aujourd'hui, quoi. Donc très très subjectif. Mais en mélangeant une donnée très subjective avec une plus objective.
Et sujet à forte variation.
Et pas tant que ça. Quand on prend un échantillon suffisamment large de population, on arrive à des moyennes qui ne bougent pas beaucoup d'une année à l'autre. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a une assez faible corrélation dans le temps entre l'augmentation du PIB, qui lui croît éternellement, et l'indice de satisfaction de vie, qui à un certain moment
stagne.
Donné est complètement décorrélé du PIB, hein, donc qui finit par stagner. La France a un indice de satisfaction de vie qui, je crois, est autour de 6 sur 10 depuis 20 ou 30 ans, donc malgré la croissance économique qu'on a pu connaître.
Bon, mais on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, on va quand même se mettre à parler de l'empreinte écologique, qui est l'indicateur qui nous intéresse ce soir. Au premier chef. Alors, l'empreinte écologique, on la doit à deux chercheurs, alors, je ne sais pas s'il faut dire américains, enfin, en tout cas, ils étaient aux États-Unis,
Mathis
Canada.
L'université de Vancouver, oui.
Voilà, Mathis Wackernagel et William Rees.
Oui, tout à fait. C'est en fait le projet d'empreinte écologique. Alors, le terme est né à la fin des années 80, début des années 90, c'est encore assez conceptuel. Et puis, le projet est véritablement né d'une thèse de doctorat, comme il s'en passe des milliers dans le monde. Et puis, de temps en temps, il y a un truc un peu miraculeux qui apparaît. Et là, l'idée, bon, la thèse de Mathis Wackernagel, dirigée par William Rees, avait pour but d'essayer de tester un petit peu cet outil, enfin cette idée, de la concrétiser, hein, cette idée d'empreinte écologique. Et donc, effectivement, c'est né à un moment opportun, hein, 1992-93, dans ces eaux-là, à un moment précisément où le développement durable, on revient en tout cas sur la notion de durabilité, devient incontournable du fait de la conférence de Rio, le sommet de la Terre, et bon, ben, l'injonction qui est faite par les Nations Unies d'aller vers le développement durable. Alors, le développement, on l'a évoqué, on a des indicateurs, mais la durabilité écologique, point d'interrogation. Et l'idée un petit peu de Mathis Wackernagel et de William Rees, c'était d'arriver à créer un indicateur synthétique qui a à peu près les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que le PIB, d'ailleurs, ce qui n'est pas un très bon compliment pour l'empreinte écologique, mais avec au moins les mêmes avantages pour mesurer la durabilité écologique, quoi, en gros. Voilà. Si je simplifie, c'était un petit peu le projet à l'origine, quoi.
Alors, c'est bien de commencer simple, mais là, on va un peu complexifier. Vous allez nous expliquer un peu mieux comment ça marche.
Alors, comment ça marche ?
L'empreinte écologique, d'abord, il y a une, me semble-t-il, il y a une sorte de malentendu sur le terme lui-même. Empreinte écologique, on imagine la trace qui reste après le passage de l'homme, trace qui reste soit, je sais pas, dans le sol, dans l'eau, dans l'air, c'est-à-dire on a tendance à imaginer que c'est une sorte de pollution ou de dégâts qui a été infligé par une activité humaine. En fait, c'est pas ça du tout, l'empreinte écologique.
Non, si je devais prendre une image, ce serait plutôt la surface, donc une empreinte, ça occupe une surface, la surface de la planète qu'il me faut pour répondre à mes besoins. C'est un petit peu ça, hein, l'idée de l'empreinte écologique. Alors derrière, là c'est le terme qui a été finalement retenu, mais derrière il y a une démarche un peu plus scientifique, hein, sur la notion de capital naturel. Avec la même démarche que le PIB, on part d'un concept, tiens, le capital naturel, et puis on essaye de le définir un peu plus précisément, puis de voir comment on peut essayer de le mesurer de manière synthétique. Donc en gros, l'empreinte écologique, c'est une espèce de système comptable des ressources naturelles. Voilà. Et on va mesurer, si je simplifie à l'extrême, on va mesurer la quantité de surface biologiquement productive qu'il faut mobiliser pour faire fonctionner une société de manière durable, c'est-à-dire sans épuiser ce capital naturel. Combien de forêts, par exemple, il faut pour répondre aux besoins de la France en bois, sans épuiser le capital forestier ? Et on fait pareil pour d'autres dimensions. Alors, il y a évidemment la forêt, il y a évidemment tout ce qui concerne les pâturages, les champs cultivés, etc. etc. Voilà.
Sans épuiser et donc en respectant les capacités de régénération.
Tout à fait, en respectant la capacité de renouvellement. Et puis, alors là, je vous parle des ressources. C'est vrai que l'empreinte écologique part du principe un petit peu systémique que l'économie humaine va fonctionner comme n'importe quel organisme vivant ou comme n'importe quelle machine. Pour fonctionner, il faut qu'elle consomme une certaine quantité de ressources. Et puis, elle va rejeter en aval de cycle un certain nombre de déchets. Donc, c'est un organisme vivant, c'est une machine. Et l'empreinte écologique va mesurer ça, à la fois les ressources qu'il faut en les gérant durablement, la surface qu'il faut, et puis en aval de cycle, la surface également qu'il faut pour séquestrer une partie de nos déchets. Alors l'empreinte écologique se concentre en matière de pollution essentiellement sur le CO2, parce que ce sont des déchets, entre guillemets, une pollution qui potentiellement est réassimilable par les écosystèmes. Vous savez que les forêts, par exemple, sont des puits de carbone, les océans aussi. Donc voilà, on va aussi regarder la quantité de nature qu'il faut pour absorber tout ça, pour pas que ça aille s'accumuler dans l'atmosphère et provoquer des changements climatiques. Donc voilà, en gros, c'est ça. Combien de nature il me faut pour répondre à tous ces besoins, à la fois de ressources et d'absorption de déchets.
Il y a un point que vous soulignez dans le livre que vous avez co-signé avec Natacha Gondran, Aurélien Bouteau, et qui me paraît important. Donc je vais vous demander peut-être de revenir dessus. C'est, vous partez de l'étymologie économie-écologie et de ce principe, pas exactement, mais enfin de cet imaginaire collectif qui voudrait que l'économie, ça soit des lois naturelles, un peu comme il y a la nature, il y a aussi les lois d'économie, tout ça est normal, naturel, et on n'y peut pas grand-chose. Mais ce que vous montrez très bien, c'est que l'économie, et vous venez d'ailleurs de l'expliquer à nouveau, l'économie, elle est en fait enchâssée dans un milieu, puisqu'elle a besoin de ce milieu pour les flux de matière et d'énergie et qu'elle a de nouveau besoin de ce milieu pour éjecter ses déchets. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas en système clos. Elle est un système à l'intérieur d'un système.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est intéressant de constater que les économistes, les premiers économistes sont fortement inspirés en fait d'une science émergente à l'époque qui est la science des machines, la thermodynamique. Et effectivement, la comparaison avec une machine est intéressante, avec un moteur de voiture par exemple. Hein. Il faut de l'essence, il faut des ressources pour faire fonctionner le moteur, et puis on va rejeter des déchets. Et donc, tout ça fait qu'on impacte l'environnement, à la fois en amont et en aval du cycle économique. Et on a pu ignorer jusqu'à un certain temps ce phénomène, parce qu'au moment où les sciences économiques sont nées, probablement que la question des limites de la planète et les limites de la nature n'était pas encore très préoccupante. Mais ça a été la grande avancée du rapport du Club de Rome, de réenchasser l'économie dans l'écosystème en disant « attention, il y a des limites physiques ».
Et c'est là que je me tourne vers vous, Rémy Cardinal, puisque d'un côté, on a un réenchâssement de l'économie dans le milieu physique, et de l'autre, il y a cette volonté des décroissants de sortir de l'économie. Donc je voudrais savoir comment vous pouvez articuler ça. Je vais vous lire une petite phrase que j'ai prise sur votre site. « La mouvance de la décroissance entend faire décroître l'emprise écologique de nos sociétés tout en remettant en cause l'économisme qui emprunte nos imaginaires collectifs et individuels. »
Déjà, il faudrait peut-être rappeler quelques chiffres, et je vais les rappeler sous le regard de notre spécialiste.
Je valide.
Si c'est validé. Pas. Visiblement, nous avons tous droit à 1,8 hectare pour pouvoir vivre, consommer, donc polluer. Donc justement, tout à l'heure...
C'est effectivement le calcul qui est fait par l'empreinte écologique. 1,8 hectare par habitant de la planète. Voilà.
Alors je fais une petite parenthèse avant parce qu'effectivement, je parlais de bilan comptable, l'empreinte écologique s'intéresse donc aux besoins, mais le grand avantage et ce qui a fait le grand succès de l'empreinte écologique, c'est qu'on peut comparer cette demande, ce dont l'économie a besoin, avec ce qui est disponible. Ce qu'on appelle la biocapacité en jargon empreinte écologique, en gros les surfaces biologiquement productives sur la planète. Ça va être quelque chose comme 13-14 milliards.
11 milliards.
Oui, 11,2. Alors, les chiffres ont un peu bougé là. Ah. Mais bon, du fait du mode de calcul, hein, la Terre ne s'est pas agrandie. Mais en gros, oui, si on prend les anciens chiffres,
voilà, c'est ça. Là,
si on divise par le nombre d'habitants, on arrive à 1,8 hectare par habitant. Si je décide de répartir équitablement la biocapacité pour chaque habitant, après tout, pourquoi pas, c'est un principe éthique qui se défend, hein, et ben, j'ai droit à 1,8 hectare de sol biologiquement productif pour répondre à mes besoins.
Donc,
alors, visiblement, nous avons depuis quelques années dépassé ces capacités, ce terrain.
Nous, certains d'entre nous.
Comment ?
Certains d'entre nous, habitants de la planète, pas tous.
C'est-à-dire que si on le divise par le nombre d'habitants, nous sommes déjà à 2 hectares 3.
Oui, oui.
Donc, évidemment, qu'il y a des gens qui consomment plus. Il y a des sociétés qui consomment plus que d'autres. Nous, Européens, nous sommes entre 3 et 4 planètes. Nous consommons 3 ou 4 planètes. Aux États-Unis, ils en sont à 6, voire 7. Alors ça marche pourquoi ? Parce que pour l'instant, on mange le capital. C'est-à-dire que nos sociétés sont basées sur l'énergie fossile, le pétrole, le gaz, le charbon. Pour l'instant, ça marche encore à peu près. On s'est fait une petite frayeur il y a un an avec l'augmentation du prix du baril. Alors on se pose tous la question, mais quand est-ce qu'on ne pourra plus, on ne trouvera plus de pétrole. Donc nous, on rappelle que le problème, ce n'est pas de savoir quand il n'y aura plus de pétrole. C'est le problème, c'est quand on ne pourra plus se payer ce pétrole. Alors ça marche parce que, donc, comme je disais, on mange le capital, notre patrimoine, et ça marche aussi parce que les pays du Sud nous portent assistance. Au Burkina Faso, comme dit Serge Latouche, ils consomment 0,1 une planète. Donc déjà, ça pose beaucoup de questions sur nos valeurs de démocratie, les idées de liberté, de partage, d'égalité, ça en dit long. Est-ce qu'on veut continuer à être dans une société qui on prend la plus grosse part sans se soucier, encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, des générations futures?
Mais tout de même, ce que je remarque, c'est que finalement, cet indicateur, l'empreinte écologique, il vous est bien utile.
Ah ben, nous, c'est le seul indicateur qu'on défend. Enfin, c'est grâce à ça. On se dit, si on ne dépasse pas 1,8 hectare, mais tout va très bien. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans les années 70, en France, on consommait une seule planète. Pourtant, nos voitures faisaient au moins 15 litres 100. Maintenant, nous avons des voitures extrêmement efficaces. On sait qu'on peut faire entre 3 et 4 litres au 100. Et puis pourtant, on a de plus en plus, on libère de plus en plus de gaz carbonique. Pourquoi ? Parce que c'est le fameux effet rebond. La science nous aide, soi-disant, donc on surconsomme. Et on se dit bien, la technologie va bien trouver une solution. Ça s'appelle le scientisme.
En tout cas, cet indicateur, il a connu un succès tout à fait étonnant, Aurélien Bouteau.
Oui, je crois que c'est en particulier dû au fait qu'il il arrive à agréger une multitude de données. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de données statistiques qui rentrent dans le modèle. Aussi parce que les données statistiques sont de plus en plus disponibles au niveau international. Et puis surtout, il y a cette idée de comparaison, comme je le disais, entre l'empreinte écologique, la demande et la biocapacité. Et donc, ces notions de planète, il faut bien comprendre ce qu'on a dit. La biocapacité, c'est 1,8 hectare par habitant. Si on a une empreinte de 5 hectares, comme la France, effectivement, il faudrait 2 à 3 planètes supplémentaires si tout le monde vivait comme nous.
Un Français.
Voilà.
Ouais.
Donc, c'est l'idée qui est derrière. Donc, ce nombre de planètes, ça a frappé un petit peu les esprits et ça a montré... ce dont on se doutait, c'est qu'on dépasse largement aujourd'hui les capacités biologiquement productives de la planète. On consomme plus que ce que la planète est capable de régénérer comme ressource durablement.
Il y a d'autres chiffres qui sont intéressants d'ailleurs, qu'on peut glaner dans cette empreinte écologique. Le fait qu'en 40 ans, depuis 1960, l'empreinte a été triplée. Donc on voit que c'est dans un temps extrêmement court.
Pourtant,
oui, Rémi Cardinal.
Oui. Et pourtant, j'ai pas l'impression que dans les années 70, on mangeait 3 fois moins. On ne se lavait pas 3 fois moins. Alors, c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Ça pose la question justement de l'économie et de ce fameux PIB. La différence entre les années 70 et maintenant, c'est le transport. À l'époque, dans les années 60, on consommait beaucoup plus local. On mangeait le lait de la ferme d'à côté, on faisait du yaourt avec, et puis on prenait les fraises du jardin dans un pot recyclable. Et puis maintenant, on a comptabilisé que le moindre pot de yaourt que nous achetons dans les supermarchés, il comptabilise plus de 8000 km. De transport. Donc ça montre que justement, le PIB, on a changé les calculs, donc finalement, il y a eu une croissance extraordinaire, et on mange les tomates en Espagne qui viennent de Hollande, et en Hollande, on mange les tomates qui viennent d'Espagne.
Et de fait, 50% de l'empreinte globale, c'est l'empreinte des énergies fossiles.
Oui, c'est tout à fait. Donc ça a été le gros boom quand on regarde l'augmentation de l'empreinte écologique mondiale. C'est vrai que c'est essentiellement cette empreinte carbone qui a augmenté. Alors l'empreinte carbone, on va la retrouver, on peut être surpris parce que si on regarde l'empreinte écologique non pas par habitant, mais sur l'ensemble de la planète, on voit une augmentation forte et c'est l'empreinte carbone qui augmente beaucoup. Elle a été multipliée par 2 au niveau mondial. Sur la même période, on constate que la population avait aussi été multipliée par deux. Donc en gros, l'empreinte écologique moyenne par habitant au niveau mondial, elle n'a pas tant augmenté, un petit peu, mais pas tant que ça. Donc je veux dire par là que le facteur démographique a aussi un rôle non négligeable qu'il faut pas oublier, hein, même s'il faut pas en faire le facteur central. Mais c'est surtout l'utilisation massive de ces énergies fossiles qui a augmenté en fait l'empreinte écologique. Hein. Donc on tape dans un capital comme l'expliquait Rémi tout à l'heure et ça se ressent évidemment dans l'empreinte écologique.
Donc on le voit, c'est un indicateur qui est très spectaculaire, qui permet une prise de conscience qu'on a vu d'ailleurs s'opérer un peu à tous les échelons de la société. Peut-être deux petits bémols sur cet indicateur avant qu'on commence à penser que c'est la panacée universelle. D'abord, tout comme le PIB, il ne mesure pas tout. Et donc il ne faudrait surtout pas imaginer qu'avec l'empreinte écologique, on a une image complète de la situation planétaire. Entre autres, par exemple, il ne mesure pas du tout tout ce qui est minerai, tout ce qui vient de la lithosphère, tout ce qui n'est pas renouvelable, en quelque sorte. Donc, c'est quand même un problème. Ça ne mesure pas non plus toutes les pollutions qui sont induites, c'est-à-dire toutes les pertes de productivité des sols dues à une agriculture intensive, à l'usage des pesticides, etc. Et puis, c'est pas un bémol, mais en tout cas une précision importante que vous soulignez, Aurélien Bouteau, le fait que les concepteurs de cet indicateur ont fait le choix systématique de toujours sous-estimer, c'est-à-dire de toujours prendre l'hypothèse la plus basse. C'est-à-dire que, quels que soient les résultats qui sont fournis par cet indicateur, ce sont ceux-là ou des résultats encore plus effrayants, en quelque sorte.
Oui,
inquiétant en tout cas.
Au final, il faut en conclure que les résultats de l'empreinte écologique sous-estiment probablement la problématique environnementale. D'une part, parce qu'effectivement, tout n'est pas pris en compte. Là, c'est une question, on n'a pas eu le temps de s'attarder là-dessus, mais c'est une question un peu conceptuelle. C'est-à-dire que tout comme le PIB va considérer que ce qui est dans la sphère marchande, l'empreinte écologique s'est essentiellement concentrée sur la sphère la biosphère, hein, c'est-à-dire la partie vivante des écosystèmes qui a une capacité de production biologique, hein, pour différents services. Bon. Donc voilà, ce qui veut dire que les minerais, par exemple, issus du sous-sol, ne sont pas pris en compte. Le pétrole, si, le gaz aussi, parce que c'est indirectement des produits de la biosphère. Et puis surtout, ça peut être potentiellement réassimilé par les écosystèmes. Mais les autres minerais ne sont pas pris en compte. Sur la question, la deuxième question qui était effectivement la question de l'érosion des sols, la destruction des sols, etc. Attention, c'est vrai que ce n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que si on a des modes de production agricole qui ne sont pas durables, on a une empreinte écologique qui est plutôt bonne parce qu'on va produire plus à l'hectare. Sauf qu'à terme, s'il y a une destruction des sols, ça va jouer sur l'autre composante de l'empreinte écologique qui est la biocapacité, une réduction de la capacité biologique. Donc c'est indirectement pris en compte, mais on n'anticipe pas ces réductions de biocapacité dans l'empreinte écologique. Un peu compliqué, mais bon, il faut toujours penser à ces deux côtés
mais
de la balance.
C'est important de préciser.
Et puis sur le dernier point, rappelez-moi le dernier point, c'était la question...
la sous-estimation systématique.
Oui, oui, alors ben, ça, en fait... Je pense que c'est un parti pris qui est intéressant parce qu'en fait, on est sur un système extrêmement complexe et à un moment donné, il faut poser des hypothèses, il faut faire des choix méthodologiques et on est dans une situation où on crée un indicateur. Un indicateur, c'est vraiment un outil qui va tirer sa légitimité un petit peu du scientifique, hein, mais qui en même temps est à disposition du politique, de l'action. Et donc, pour être crédible politiquement, en termes d'action, un des choix qui a été réalisé, même s'il n'est pas toujours explicite, c'était de dire, bon, on va prendre les hypothèses qui font qu'on minimise un petit peu l'empreinte écologique, et au contraire, on surestime probablement un petit peu la biocapacité. Hein. Donc, si je résume, on sous-estime un peu...
Les dégâts.
On sous-estime un peu la demande, et probablement qu'on surestime un peu l'offre potentielle. Mmh. Donc, l'écart, le déficit écologique, l'écart entre la biocapacité et l'empreinte écologique est sûrement un peu plus fort que ce qu'on constate
aujourd'hui.
L'écart
dans le sens du dépassement.
Voilà, dans le sens du dépassement, oui, tout à fait.
On va passer la parole à la salle. Oui, on a une question là.
Oui, bonsoir. J'interviendrai pas sur l'empreinte écologique parce que ça vient d'être dit par Madame Stégassi, que ça prenait pas en compte le non renouvelable, les produits chimiques, tout ça. Il y a un indice planète vivante qui complète un peu. Par contre, le PIB, à une époque, c'était uniquement le marchand, je crois, mais il y a un PIB non marchand aussi. C'est tous les services publics de l'État, l'éducation nationale, la justice, etc., qui sont évalués au prix coûtant et qui prend en compte les salaires et puis l'entretien des bâtiments ou la construction de bâtiments, en gros, quoi. Mais qui est évidemment beaucoup moins important que le PIB marchand, qui est gonflé comme autant qu'on veut. Où je suis pas d'accord non plus, c'est avec le modèle des sciences économiques, c'est pas la thermodynamique qui a commencé en 1834, parce que le mémoire de Carnot, c'est 1824, mais c'est Clapeyron qui l'a ressorti et qui a écrit là-dessus, et puis c'est parti. Et donc, François Quesnay, son tableau, c'est 1751, je crois. En tout cas, le fameux bouquin de Smith, c'est 1776, donc c'est bien avant. Et leur modèle, c'était le modèle des sciences de la nature de l'époque, c'est-à-dire c'était la physique, et en particulier la mécanique céleste, le truc circulaire, etc., quoi. Et donc la thermodynamique est venue après. Marx n'en a pas tenu compte, il n'a pas intégré ça, c'était à peu près contemporain, enfin il a dû en entendre parler normalement, et il n'y a que George Scourgen qui a vraiment intégré ça enfin, dans les années 70 et jusqu'à sa mort, quoi. Bon, ben voilà.
Aurélien Bouteau, vous voulez répondre?
Oui, que j'approuve complètement, effectivement. Non, c'est vrai sur le PIB, vous avez raison, on a fini par daigner inclure quand même les services publics dans le PIB.
Mais on entend les chefs d'entreprise, ou etc., mais même dans la comptabilité, ils ont raison, parce que c'est considéré comme une charge. Le PIB non marchand est considéré comme une charge. Celui qui crée la richesse, c'est le PIB marchand, et le reste, l'État, c'est une charge.
C'est une précision que vous faites d'ailleurs dans votre livre.
C'est ajouté.
Alors, former un enfant, l'éducation, l'enseignement, etc., c'est un coût, c'est une charge. Bon, ça peut avoir un coût, bien sûr. Alors que produire des gadgets dont on n'a que foot, c'est une richesse, quoi. Voilà.
On va passer à la question suivante.
Oui, bonjour. Une information et une question. L'information, vous avez parlé d'actualité brûlante sur les indicateurs. Il y a une actualité qui va venir très prochainement, puisque la commission Stiglitz-Amartya Sen, qui devait rendre son rapport en mai-juin, et finalement, aux dernières nouvelles, elle va le rendre le 14 juillet. Alors, je ne fais pas d'hypothèse sur cette date-là, mais voilà, c'est ce que j'ai comme information à vous donner. Et ma question, alors, c'était pour revenir un peu sur le titre de l'émission. On a parlé de la critique de la croissance, mais on n'a pas parlé des solutions de la décroissance. Alors, si on pouvait revenir sur le sujet et que vos invités nous éclairent un peu sur ce qu'ils entendent par décroissance et comment on s'y prend.
En tout cas, ils ont un grand sourire. Rémi Cardinal.
Alors, la décroissance, il faut bien faire attention. C'est un mot obus, c'est un mot provocateur, afin d'interpeller les consciences des gens sur cette fameuse croyance dont je parlais tout à l'heure. La décroissance, pour l'instant en tout cas, n'a pas de programme clé en main.
Vous voulez dire qu'elle n'est pas le contraire de la croissance?
Alors, la décroissance n'est absolument pas le contraire de la croissance. Ce n'est pas la croissance négative. Nous avons souvent l'habitude de dire que la décroissance, il faudra plutôt la choisir, sinon ça sera la récession subie. D'ailleurs, c'est ce que nous vivons en ce moment. Si on devait être précis, il faudrait plutôt parler d'accroissance, comme athéisme. Vous voyez que vraiment l'histoire de la croyance chez nous est très 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 importante. Alors, les solutions, on n'a pas de solution clé en main, mais je pense qu'il y a quelques pistes. Déjà, il va falloir rendre ce projet de décroissance désirable, comme le capitalisme a été extrêmement apprécié depuis maintenant des siècles. Eh bien, nous aussi, il va falloir qu'on soit désirable. Et je pense que la piste, par exemple, de la gratuité est une piste intéressante. La gratuité, le capitalisme a horreur de la gratuité. Depuis des décennies, on essaie de toujours plus nous mettre des péages pour rendre justement la société beaucoup plus marchande. Et d'ailleurs, le PIB est un véritable outil pour cela. En plus, au XXe siècle, marketing, publicité, obsolescence des objets. Bon, voilà. Bon, alors nous, la sphère de la gratuité, c'est très important. Développer plein de secteurs gratuits, comme la santé, les services publics, la culture. Et alors, évidemment, que pour développer cette gratuité, il va falloir aussi qu'on parle des revenus. Nous sommes pour un revenu minimum. et je parle bien de revenu et non salaire. C'est-à-dire qu'un revenu, on pourrait donner une certaine quantité d'énergie, de nourriture, un toit à chaque être vivant. Mais cela n'aurait aucun sens si nous ne le couplons pas à un revenu maximum. Alors, ce sera à la société de décider. Mais si nous ne notons pas pour un revenu maximum, eh bien, encore une fois, les plus riches pourront toujours polluer plus, alors que les plus pauvres paieront cette fameuse crise environnementale. Voilà quelques pistes, mais évidemment, parler de décroissance et des projets en 1 minute 30, c'est un peu difficile.
Je ne vous ai pas dit que vous aviez 1 minute 30, mais enfin, merci de vous y être tenu. Il y a un article très intéressant, d'ailleurs, dans « Des chiffres et des êtres éco-rêves », sur cette question. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. La sobriété joyeuse de Luke Heywood, hein, Aurélien Bouteau. Il explique que si les riches étaient un peu moins riches, ça les rendrait assez peu malheureux, finalement, parce que quand on a beaucoup d'argent, il faut des distorsions très grandes dans les revenus pour que ça devienne sensible. Donc, par exemple, si on est très très riche, il faut 100 fois plus d'augmentation de salaire pour être heureux par rapport à quelqu'un qui est pauvre et qui a une augmentation de salaire. Et donc il dit, bah, finalement, si les riches sont un peu moins riches, ils ne s'en rendront même pas compte, mais les pauvres seront beaucoup plus heureux. Et puis vous suivez une piste qui est intéressante aussi et qui est assez connue par chez nous, ici à Terre à Terre, c'est celle des mégawatts, Aurélien Bouteau.
Oui, alors effectivement, bon, on peut se poser la question. C'est un petit peu l'idée quand même de conclure le livre sur l'empreinte écologique qui avait essentiellement vocation d'éclairer un petit peu sur ce que c'est. Mais quand même, on pouvait difficilement ne pas aborder les pistes de réduction de l'empreinte écologique, constatant quand même que bon, dans un pays comme la France, on a une empreinte écologique qui est probablement un peu trop forte par rapport à ce qu'il faudrait. Donc les pistes, évidemment, là, ça relève plus du projet politique. Hein, ça va être des choix à réaliser. Mais c'est vrai qu'on essayait de regarder en utilisant un scénario qui est le scénario négawatt, ce que ça pouvait donner en termes d'empreinte écologique, par exemple, sur l'empreinte carbone. Et c'est intéressant parce que précisément la stratégie négawatt, elle vise en particulier à essayer de supprimer cet effet rebond dont on a parlé tout à l'heure. Si je prends un chiffre qui illustre bien cet effet rebond au niveau de l'Union européenne, je crois qu'entre 1990 et 2005, on a eu une augmentation de à peu près 30% ou 35% de la production d'électricité renouvelable. Donc on se dit bravo. Sauf que sur cette même période, le pourcentage d'énergie renouvelable dans la production globale d'électricité est resté la même, 12%. Tout simplement parce qu'on a augmenté la quantité de biens de consommation qui consomment de l'électricité, toujours plus d'électricité. Donc il faut éviter ça. Et pour l'éviter, évidemment, il faut commencer par réduire nos consommations d'énergie. Hein, si je prends l'empreinte carbone, par exemple, la priorité, elle doit être à la fois sur les changements de comportement pour réduire ces émissions de carbone, mais aussi compter éventuellement sur la technique, donc des aspects qui ne sont pas tant de la sobriété de comportement, mais de l'efficacité technique. Et c'est vraiment dans la conjugaison des deux qu'on va arriver à réduire suffisamment notre empreinte écologique pour passer vraiment à une stratégie renouvelable. Tant qu'on n'aura pas passé ces deux premières étapes, à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose de faire du renouvelable. Hein, et donc, la priorité quand même au changement de comportement qui accompagne un changement technique, parce que la technique à elle seule, c'est sûr que ça ne suffira pas, quoi.
Et voilà, c'était le mot de la fin déjà. Je suis désolée. Merci beaucoup pour cet entretien si intéressant. Terre à Terre, c'est terminé pour aujourd'hui. Terre à Terre, que vous pouvez re-télécharger pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous y trouverez une bibliographie, celle qu'on a évoquée en début d'émission. Vous y trouverez également notre revue de web hebdomadaire. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Right. I wanna go to the deep. Voilà, on recevait aujourd'hui Aurélien Bouteau et Rémi Cardinal. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon. Prise de son et mixage au Phytoba, Olivier Berotte et Adrien Gaza. Réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.
inside, and I can't hide or even walk away. Some kind of superstar. Well, an asshole is what you are, but that's all.